ce matin, dans votre vie, qu'est-ce que vous avez le plus de mal à gérer? Évidemment, là, vous voyez ma photo, fait que ça vous donne un petit indice. Qu'est-ce qui vous manque le plus souvent ou que vous avez l'impression de ne pas avoir en quantité suffisante? L'amour, il y en a qui disent l'amour, du temps. Peut-être que vous pensez à l'argent, peut-être aussi c'est l'argent. Mais dans ma propre expérience, c'est souvent plus difficile à gérer le temps. Alors, c'est souvent de temps qu'on manque. Puis, il y a une phrase célèbre qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Alors, je ne sais pas si c'est vrai que le temps, c'est de l'argent. C'est en partie vrai. Mais je crois que le temps, c'est quelque chose qu'on gère plus difficilement dans nos vies. Et ce matin, je veux parler du temps. Parce que ça me concerne, moi, mais ça concerne beaucoup de personnes ici. Alors, vous pouvez entendre, « Ah, le temps passe trop vite! » À un moment ou un autre de notre vie, là, on dit ça, cette phrase-là, là, une banalité. « Ah, ça passe trop vite, le temps! » Avez-vous déjà entendu ça partout? Vous allez au salon de coiffure, au magasin, « Ah, ça passe tellement vite! » Puis quand on a des enfants, les parents, on radote, « Ah, ça passe trop vite, mes enfants sont rendus trop grands! » Alors, cette phrase-là, « Oh, qui a grandi! » Alors, ça, c'est une phrase célèbre quand les autres voient nos enfants que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu. Et ce qui nous fait dire aussi fréquemment, « Excusez-moi, j'ai pas le temps. » Alors, avez-vous déjà dit ça, « J'ai pas le temps? » J'ai pas le temps. Justement, cette semaine, quelqu'un frappe à ma porte alors que j'allais sortir. Le monsieur, il me voit, j'ai déjà mon manteau sur le dos, mon sac à dos, puis là, je dis, ben, je suis pas mal pressée, j'ai un rendez-vous, je m'en vais. Alors, il commence à me parler, je regarde, je dis, j'ai vraiment plus le temps. Alors, c'est une expression qu'on entend souvent, j'ai pas le temps. Tout va vite, trop vite, toujours trop vite. Est-ce que vous rêvez d'une journée de 48 heures ou d'une semaine de 8 jours? Peut-être que oui. Vous êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui rêvent de ça, entre la vie de famille, les enfants, le travail à la maison, le travail à l'extérieur, les loisirs, les amis, l'horloge, le calendrier deviennent des ennemis presque. L'agenda, ça devient un ennemi, notre agenda est rempli, rempli, rempli. Pourquoi on est si nombreux à courir après le temps, à répéter toujours, semaine après semaine, « j'ai pas le temps ». Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver. J'ai hâte à mes vacances, puis on a hâte de plus en plus à la prochaine vacance. On vit pour la prochaine étape. On vit pour ce qui va être fini. Est-ce que ça vous arrive, ça? Bien, moi, en tout cas, ça m'arrive. Oh, j'ai hâte que ce bout-là soit passé. Oh, j'ai hâte que l'automne soit passé. Oh, j'ai hâte que le printemps soit passé. Oh, j'ai hâte que l'hiver soit... Ah, être vite, c'est l'hiver! Qui a hâte que l'hiver soit passé? On n'est même pas encore arrivé. Alors, peut-être qu'on remplit justement nos agendas, peut-être parce qu'on a peur du vide quelquefois. Il faut que notre agenda soit rempli à rebord, et là, on va se sentir heureux, on va se sentir des gens importants. Il y a comme une expression aussi, « Ah, j'ai pas de vie! » C'est populaire ça, « j'ai pas de vie », ça veut dire « je suis tellement occupée! » Puis là, on a l'air important, « j'ai pas de vie! » Ah, alors, la vie, c'est que notre agenda soit rempli? Je ne suis pas certaine de ça. On ne veut pas manquer et on vit dans une société YOLO, alors « you only live once », alors tu vis seulement une seule fois, alors on a tellement peur de manquer des choses qu'on remplit notre agenda, qu'on se jette un peu partout. Moi, je lisais une statistique, c'est en 2013, c'est en Europe, mais il y a la statistique américaine aussi. On dit qu'aujourd'hui, le travail, ça représente seulement 12 % de notre temps et notre espérance de vie s'accroît régulièrement. Ça, c'est la statistique pour la France, c'est dans le Nouvel Observateur, mais aux États-Unis, c'est 16 %. Par rapport au 19e siècle, on vit, paraît-il, 33 années de plus en moyenne. Donc, du temps, on en a plus qu'avant. Mais pourtant, le manque de temps, c'est devenu le mal de notre société, de notre siècle. On manque de temps, pourtant, on a plus de temps. Puis en plus, on a la technologie que les gens d'antan n'avaient pas. Alors, si je remonte au temps de ma grand-mère, par exemple, elle n'avait pas un lave-vaisselle, une machine à laver qui, le lavage se fait tout seul, là, il n'y avait pas un aspirateur aussi performant. Alors, nous, on a la technologie, mais pourtant, on manque de temps. Peut-être même que vous êtes venu ici ce matin, puis que vous êtes déjà pressé de repartir parce que vous avez un tas de choses à faire cet après-midi. Peut-être dites, ah, j'espère que ça finira pas trop tard ce matin. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me parler en sortant. Je vais dire, ah, j'ai pas vraiment le temps. Alors, peut-être que vous êtes venu dans cette attitude-là ce matin, mais prenez votre temps. Prenez les prochaines 30 minutes pour relaxer et pour dire, Dieu, qu'est-ce que tu as à m'apprendre ce matin? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Dans une semaine, je ne vous apprends rien, il y a 168 heures, si vous ne le saviez pas. Si vous en dormez 56, soit 8 heures par semaine, par nuit, pardon, et que vous en travaillez 40 par semaine, si vous faites un calcul rapide, il vous reste 72 heures de temps libre. Pas mal, hein? Est-ce que c'est suffisant? 72 heures. Qu'est-ce que vous faites de vos 72 heures? Vous pouvez réfléchir à ça un matin pendant que je parle. Qu'est-ce que je fais de mes 72 heures? Puis peut-être qu'il y en a qui dorment moins, alors il y a encore plus de temps. Peut-être qu'il y en a qui dorment un peu plus, ils ont un petit peu moins de temps. Qu'est-ce qu'on fait de ces 72 heures-là? Ce matin, j'aimerais partager avec vous mes réflexions des dernières semaines. Et le texte que j'ai choisi, il se trouve dans le psaume 90, 12. Oh, c'est la version du sommeur. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Dans la parole vivante, j'aime bien aussi la version de la parole vivante, je ne l'ai pas mis à l'écran, c'est « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquérons un cœur sage. » Alors, le compte à rebours est parti. Et ce matin, je parle du temps, pas pour nous stresser davantage, bien loin de moi, cette idée-là, mais pour qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on fait avec notre temps. Où est-ce qu'on met toutes ces précieuses heures-là qui sont devant nous? À quoi on consacre notre énergie? Puis quand le psalmiste, ce psaume-là, il est écrit par Moïse, c'est pas écrit par David. David il écrit beaucoup de psaumes, mais celui-ci, il est écrit par Moïse. Quand il parle de compter, vous comprendrez bien que c'est pas compter 1, 2, 3, 4. C'est plutôt savoir investir notre temps. C'est dans ce sens-là qu'il y a le comptage. Et « apprends-nous », c'est un impératif, c'est une prière. « Apprends-nous », c'est comme si on disait « c'est le souhait de notre cœur ».« Apprends-nous », c'est un verbe d'action, c'est l'impératif qui est là. Il n'y a pas de « s'il te plaît, peux-tu nous apprendre ?» C'est « apprends-nous à prier », c'est un cri du cœur. Comment Dieu peut nous apprendre à compter nos jours? Comment il peut faire ça? Comment nous, on peut apprendre à compter nos jours? Qu'est-ce que ça signifie, ça, apprendre à compter nos jours? Pour moi, apprendre à compter nos jours, c'est premièrement reconnaître que la vie, c'est un cadeau, c'est une grâce spéciale. Chaque vie, ici, c'est un cadeau de Dieu. Il nous donne cette vie-là pour l'utiliser, pour en jouir, mais chaque vie, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'à la fois qu'on maîtrise. C'est un peu ambivalent. Hier soir, j'étais en train de réfléchir à ça. Je me disais, OK, est-ce qu'on a un contrôle sur notre vie? Oui ou non? Qu'est-ce que vous diriez, tiens, avant que je vous dise ma réponse? Oui et non. Oh, c'est ça, ça ressemble à ma réponse. Oui et non. Alors, les deux réponses sont bonnes. Vous êtes tous gagnants. Vous gagnez 10 minutes de temps supplémentaire dans votre vie. Alors, ce sur quoi on n'a pas de maîtrise, c'est la fin de nos vies. Alors, c'est la mort. Chaque être humain, alors naître, c'est le premier obstacle à la vie. Alors, c'est sûr qu'on va finir par mourir. Dans ce sens-là, on n'a pas de maîtrise. Ce sur quoi on a la maîtrise, c'est ce qu'on va faire avec notre temps, ce qu'on va faire avec notre vie. Les choix qu'on va faire par rapport à cette vie-là, c'est sur ça qu'on a du pouvoir. Et un père chrétien disait, « La grande illusion de l'homme, c'est de vouloir maîtriser sa vie. Or, la vie est un don qui échappe par sa nature même à toute tentative de maîtrise. » Puis je crois que c'est très vrai, cette citation-là. Alors, il y a des choses, surtout la durée de notre vie, qu'on ne peut pas faire. J'ai lu une histoire, puis je trouvais ça drôle. C'est comme un homme, Joe, qui, le jour de ses 70 ans, décide de changer complètement de vie pour vivre plus longtemps. Il se soumet à un régime strict, fait du jogging, du vélo, il prend un coach. En l'espace de 3 mois, Joe perd 13 kilos. Augmente ses pectoraux, réduit son ventre. Mince et bronzé, il décide de couronner le tout en s'offrant une nouvelle coupe de cheveux. Mais un bus le renverse juste lorsqu'il sort de chez le coiffeur. Zut alors! Allongé sur le sol, mourant, il s'écrie « Oh Dieu! Comment peux-tu me faire ça à moi? » Et une voix du ciel lui répond « À vrai dire, Joe, je t'avais pas reconnu. » Alors, on veut vivre, on veut profiter de la vie et c'est très bien. Et on essaie d'avoir du contrôle sur notre vie. Mais même dans le psaume 90, je ne l'ai pas mis plus tard, Moïse va dire au verset 12, ça va... Non, un petit peu avant... Tous nos jours disparaissent et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Alors, il y a une fin. Et cette histoire-là de Joe, ça me fait aussi penser à la parabole du riche insensé dans Luc 12. Jésus raconte une histoire d'un homme qui est très à l'aise, qui fait de grands projets d'extension, là. Il stocke ses biens partout. Puis l'homme dit, « je vais me dire à moi-même, te voilà donc avec des nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu as accumulé, qui l'aura? » Alors, on ne sait pas, c'est là-dessus qu'on n'a pas de maîtrise, on ne sait pas quand notre fin va venir. Puis, on peut prendre des actions pour améliorer notre vie. On peut manger mieux, faire de l'exercice. C'est sûr que ça améliore la condition de notre vie, puis ça améliore la qualité de notre vie. Et Dieu n'est pas contre l'amélioration de notre vie, certainement pas. Mais malgré tout ça, c'est Dieu qui a le mot de la fin sur le compte de chacun de nos jours. C'est lui qui va avoir le dernier mot. Et il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre à cette grandeur de Dieu et qui décident de vivre leur vie sans Dieu. Ça fait partie aussi de la créativité de Dieu, c'est qu'il nous a choisis avec un libre choix. Alors, on peut choisir de passer outre ce que Dieu dit à propos de nous, puis de faire à notre tête, puis de ne pas le mettre dans le quotidien de nos vies, de ne pas le mettre dans nos vies. Mais je ne crois pas que c'est le choix que vous avez fait ce matin. Du moins, vous avez fait le choix de venir ici ce matin. Alors, c'est que Dieu a un intérêt, a une quelconque importance dans votre vie. Et quand on dit reconnaître la vie, que c'est un cadeau, la vie en abondance, c'est ce que Jésus nous propose aussi. Alors, ce n'est pas que Dieu dit, « Hey, étant donné qu'il ne te reste plus beaucoup de jours à vivre, prie et veille jour et nuit, bien qu'on est exhorté à prier, mais vous me comprenez dans quel sens Dieu veut qu'on vive. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Alors Jésus veut que vous viviez une vie d'abondance. Alors, le premier point, c'est vraiment bien compter nos jours, c'est reconnaître que la vie est un cadeau, que la vie est un don. Deuxième chose, puis je m'en vais vers là aussi, j'ai déjà commencé à en parler, la vie est fragile. Alors, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Acquérir la sagesse, c'est se rendre compte que la vie est fragile ou que la vie est brève, la brièveté de la vie. Le psalmiste dit « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Alors, nous sommes fragiles. Vous savez, là, quand vous recevez un paquet, ça peut être marqué « fragile, manipulé avec soin ». Mais alors, vous aussi, vous êtes fragile. Vous devez être manipulé avec soin. Mais il y en a que ce message-là, ils ne l'ont pas compris, ils ne font pas attention à leur vie, à ce cadeau que Dieu leur prête. Ils ne se manipulent pas avec beaucoup de soin. Ils remplissent leur agenda et ça, ce n'est pas se manipuler avec soin. Évidemment, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de faire des grosses semaines chargées, mais on doit quand même se rappeler qu'on peut être manipulé avec soin. Et quand aussi le verset dit « afin que notre cœur acquiert la sagesse », je me suis arrêtée sur le mot « sagesse ». Qu'est-ce que la sagesse? Les proverbes disent « reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse ». Ou la crainte, dans une autre version, la crainte ou le respect de Dieu, c'est le début de la science ou c'est le début de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est savoir que Dieu est là, que Dieu est souverain sur notre vie. C'est savoir que c'est lui qui a le mot final sur notre vie. Et ça apparaît dans, si on compare notre vie, qui est une petite vie fragile, un peu comme la brise, par rapport à Dieu qui, dans un souffle, peut nous faire... Il ne nous fait pas mourir, mais on meurt, on retourne vers lui. Alors, ça, c'est la grandeur de Dieu. Dans le psaume, ça dit « Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu et tu le resteras toujours. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée ou quelques heures de la nuit. » Pas tout à fait la même notion de temps que nous. Alors, devant un tel Dieu, bien, moi, je me rends compte que de ma petitesse, de ma fragilité. Puis, je regarde comment ma vie peut passer brièvement, comment c'est fragile. Moïse continue, il dit, « Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme le soleil du matin. Comme l'herbe qui pousse, le matin, elle fleurit, elle grandit, le soir, elle se fane, elle est sèche. La vie passe et nous allons vers la mort. » Et je ne dis pas ça pour être pessimiste ce matin, parce que s'il y a quelqu'un qui aime la vie, c'est bien moi. Mais je le sais qu'un jour, la mort va venir et que ma vie n'est pas sans fin. Ma vie est si bas parce que ma vie va se poursuivre dans l'éternité. C'est ça qu'il y a. Et je veux en venir là ce matin, ce qu'on investit ici, dans notre peu d'heures, dans notre peu de jours, parce que c'est peu comparativement à l'éternité. Ça a une répercussion sur notre vie éternelle. Quand on parle, le psalmiste, je l'ai déjà dit, dans Jacques aussi, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Oh, une brume légère. » Visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voilà ce que vous devez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Notre vie est courte. Notre vie, c'est comme une brume. Si le Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela. Où est Dieu dans votre vie, dans votre planning, dans votre quotidien, dans votre agenda? Est-ce que vous consultez Dieu ou vous vivez votre vie à fond de train, puis quelquefois vous mettez Dieu, puis quelques autres fois vous oubliez de consulter Dieu? Peut-être que Dieu n'a pas envie que votre agenda soit aussi rempli qu'il l'est. Peut-être que oui aussi. Vous pouvez lui demander où est-ce qu'il veut que vous mettiez votre temps et votre énergie. Alors, réfléchissons à ça. J'ai fait des petits calculs ce matin. Si on vit 70 ans, et plus les plus vigoureux 70, si on vit 70 ans, nos jours vont être de 25 550. Ou si on vit 80 ans, nos jours vont être de 29 200. Moi, j'ai presque 17 885 jours de vécu. À vous de deviner quel âge j'ai. Alors, moi, j'ai 17 885 jours de vécu, presque 17 885 jours de vécu. Et vous, vous avez combien de jours de vécu? Faites le petit calcul. Vous pouvez s'arrondir à une année près, là, même si vous n'êtes pas. Alors, maintenant, on peut y penser de cette façon-là. Alors, pendant que vous réfléchissez à combien vous avez de jours de vécu, 6000 de nos années sont comme un jour pour Dieu, alors une personne qui meurt à 80 ans ne vit que 8% d'un jour pour Dieu. C'est moins de 2 heures en une journée de 24 heures. C'est court, hein? Puis si on utilise un peu la métaphore de Moïse, une veille au milieu de la nuit, nos vies, comparativement à ça, sont encore plus courtes. Au temps de Moïse, il y avait 3 heures de veille dans la nuit. Donc, si 1000 de nos années sont comme 3 heures pour Dieu, alors une durée de vie de 80 ans, c'est inférieur à 15 minutes d'un jour de Dieu. Combien de minutes pensez-vous qu'il vous reste? Pas beaucoup. On n'en sait rien. Mais peu importe comment qu'il vous reste de minutes, elles sont quand même assez nombreuses pour faire quelque chose de bien avec ça. Puis, c'est peut-être difficile à entendre. Épicure, il disait qu'il y avait 2 choses qu'on n'est pas capable de regarder en face, le soleil et la mort. La mort, peut-être que dans notre culture, on voit des morts avec les séries policières, les films d'action, les morts dans les infos. Et pour certains, ils ne peuvent pas penser à la mort. Ils ne sont pas capables de réfléchir à la mort. Et à matin, je ne suis pas en train de vous dire « pensez à votre mort ». Pensez à votre vie qui est fragile, qui un jour va se terminer. C'est dans ce sens-là qu'on parle de la mort. On ne parle pas d'une manière lugubre. Si c'était votre dernière semaine, je vous pose plein de questions ce matin. Avez-vous trouvé combien de jours il vous reste à vivre? Combien? Vécu? Oui, combien? Combien vous avez de jours de vécu? Gaétan? 21 625. Faites le calcul si vous voulez savoir l'âge du pasteur Gaétan. Claude? 17 800. Oh, ça, c'est proche du mien, hein? Alors, Claude et moi, on a presque le même âge. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné mon âge? Non, bientôt 50 ans. J'ai presque 50 ans. Pardon? 49, oui. Ça, c'est notre question. Je vous pose une autre question à laquelle vous n'avez pas besoin de me répondre, mais à laquelle vous pouvez réfléchir. Si c'était votre dernière semaine, puis je ne pose pas ça dans le but d'être déprimant, je pose ça dans le but de savoir qu'est-ce qu'on ferait si on savait réellement que c'est notre dernière semaine. Peut-être que vous ne feriez rien de différent. Peut-être que vous gérez bien votre temps et que votre vie est dédiée à ce à quoi elle devrait être dédiée, parce que vous êtes en relation avec Dieu et que vous avez compris que ce que vous faites, c'est vraiment dans le plan de Dieu. Peut-être que vous feriez quelques petites rectifications ce matin. Oh, il me reste une semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait peut-être que j'aille me réconcilier avec cette personne-là. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour faire le téléphone que j'ai à faire depuis des semaines. Peut-être que vous allez aller prendre un café avec un vieil ami. Peut-être que vous allez dire à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint comment vous l'aimez de manière éperdue. À vous d'y réfléchir. De là, ça m'amène ce matin à parler de nos priorités. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Pour moi, ça veut dire enseigne-moi à établir correctement mes priorités. Enseigne-moi à accorder le temps nécessaire aux choses importantes, selon le cœur de Dieu. Le temps qu'on accorde à quelque chose à nous, démontre nos priorités, démontre nos valeurs. Et l'automne passé, j'ai fait une session de coaching et il y avait une question intéressante, c'était de trouver nos valeurs. Les valeurs qui sont vraiment importantes pour moi dans ma vie et de dire justement combien de temps je consacre dans ma semaine à démontrer cette valeur-là ou à mettre en branle cette valeur-là. Pas les valeurs souhaitées, les valeurs qui sont dans ma vie. Si on dit que Dieu, parce qu'on aime ça avoir des réponses spirituelles, on dit « Hey, Dieu, c'est une valeur dans ma vie. » Puis dans votre semaine, c'est pas de manière punitive que je dis ça, puis si dans votre semaine, il y a une minute consacrée à Dieu, peut-être que Dieu n'est pas la priorité numéro un dans votre vie. Nos valeurs sont mesurées à la somme de temps, à la somme de temps à laquelle on apporte l'importance pour la chose qu'on fait. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors, si vous avez un travail, vous n'avez sûrement pas le loisir de choisir un mois pour la même paye, je vais travailler juste 10 heures par semaine. Hey, qui aimerait ça? Si vous aviez le loisir de dire, ben moi, mon travail, là, j'ai la même somme d'argent, mais je vais travailler juste 10 heures par semaine. Oui, mais qu'est-ce que vous feriez avec toutes les autres heures? Dans le fond, c'est ça la question ce matin. Les choses de moindre priorité vont se retrouver en bas de liste. En tout cas, devraient se retrouver en bas de liste. Sinon, ben, ça fait que vous avez une vie détraquée. Si les priorités en bas de liste sont celles auxquelles vous accordez le plus de temps, il y a un problème. Et les priorités aussi, ça peut être relié aux saisons de notre vie. Si vous êtes un parent de jeunes enfants, 5 ans, 4 ans, 3 ans, il y a beaucoup de votre temps qui va passer à prendre soin de vos enfants de 5 ans, 4 ans, 3 ans. Vous n'avez pas les mêmes priorités qu'un parent, quelqu'un qui est un parent de jeunes adultes de 18 à 20 ans. Alors, on n'a pas le même emploi du temps, on n'a pas les mêmes priorités dans notre vie. Si vous êtes une mère monoparentale, peut-être que vous allez consacrer beaucoup de temps à faire les tâches ménagères, la nourriture, parce que vous n'avez pas un conjoint avec vous pour vous accompagner et vous devez combler deux postes dans votre vie. Dieu est au courant de votre vie. Il est au courant de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Puis, il nous aide à établir des priorités qui sont reliées à qui on est, à notre appel, à la saison de notre vie. Dieu est là et nous aide, apprends-nous à bien compter nos jours. Dieu est dans l'affaire, il ne dit pas « arrange-toi avec tes troubles ». Dieu dit « je veux t'aider à mettre tes priorités dans notre vie ». Et ce matin, j'ai apporté quelque chose pour illustrer ça. Alors, mon gros pot, comme vous l'aurez deviné, ça représente les priorités de nos vies. Parce que ce sont les choses grosses. Alors, les priorités de notre vie, Dieu devrait être une priorité. Et la famille, moi je dis que c'est Dieu et la famille. Alors, on remplit ça. Et les grosses priorités de votre vie, celles que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir pour changer. Alors, c'est ça qui remplit mon pot au plus haut point. Je continue. Vous pouvez penser pendant que je fais ça pour vous, quelles sont les priorités les plus importantes de votre vie? Réellement, les plus importantes. Est-ce que vous pensez qu'il reste de la place? Alors, si d'abord on met les priorités numéro un dans notre vie, il reste de la place pour des priorités qui sont de moindre importance. Alors, on peut en enlever une pour faire un dégât. Encore de la place. Je vais m'arrêter là pour que vous compreniez ce qui reste toujours de la place. Oui, il reste un petit peu de place encore pour les choses de moindre importance, parce que c'est voulu, les choses de plus grande importance sont plus grosses, les choses de moyenne importance, les priorités de moyenne importance Et il reste encore de la place pour des priorités qui ne sont pas les plus importantes, mais qui peuvent continuer à rentrer. Si j'avais fait l'inverse, là c'est voulu, je n'en apportais moins, si j'avais commencé par remplir le pot de ma vie, ça représente ma vie, par les choses de moindre importance, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y a plus de place pour les priorités. Alors, c'est pour ça que « enseigne-nous à bien compter nos jours », c'est « enseigne-moi à établir des priorités dans ma vie », à mettre d'abord et avant tout ce qui est important. Et j'aime bien. Pourquoi le café? Parce que dans notre vie, il doit toujours rester une petite place pour aller prendre un café avec ses amis. J'aime bien les illustrations, ça nous aide à comprendre. Et ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est que Dieu veut qu'on ait des priorités dans notre vie. Il nous a pas laissé au hasard comme ça. Il veut qu'on applique notre cœur. Apprends-nous à bien compter nos jours pour acquérir la sagesse, pour appliquer notre cœur à la sagesse, dépendant des versions qu'on va utiliser. Et j'aime bien ce verset dans Éphésiens. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Moi, j'aime ça, être sensé et être intelligent. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur attend de vous? Est-ce que vous lui avez demandé? Ou est-ce que vous vivez votre vie aveuglément? Moi, je me souviens, j'avais un professeur au secondaire, c'est un professeur de physique, qui était vraiment rigolote. Puis en physique, c'est plein de formules puis de principes. Puis elle disait, suivez vos principes aveuglément. Ça veut dire, applique la formule puis tout va marcher. Bien, avec Dieu, je ne vous dirais pas, vis ta vie aveuglément, je dirais, mets Dieu dans ta vie, mets les priorités dans ta vie. Demande à Dieu quelles sont les priorités de ta vie. Ce n'est pas les mêmes, on n'aura pas tous les mêmes réponses parce qu'on n'est pas les mêmes individus, comme je viens de dire auparavant. Alors, qu'on soit avisé, qu'on soit sensé pour réfléchir, pour mettre à profit les occasions qui se présentent à vous. Dieu a des plans, des appels pour chacun de notre vie et il y a des priorités qui se rattachent à cet appel-là, qui se rattachent au plan de notre vie. Dieu veut qu'on les trouve, Dieu veut qu'on les cherche, ces priorités-là, qu'on les établisse, qu'on fasse de la place dans notre agenda, qu'on mette les bonnes choses. Bien compter nos jours, enfin, je termine avec ça ce matin, c'est vivre, à mon sens, c'est vivre chaque instant avec Dieu. Et plus bas, toujours dans le psaume 90, il y a la recette, à mon avis, pour bien compter nos jours, c'est dans le verset 14. « Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. » Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Wow! Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie. Yes! Plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie. Là, je ne sais pas si c'est les jours de nous, les jours de Dieu. Les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Je crois que ces versets-là, ils sont chers à mon cœur, puis ils peuvent être chers à vous aussi, j'en suis certaine. Ils résument, dans le fond, la pensée de ce texte-là. Pour être heureux, il faut bien compter nos jours avec Dieu, sous le regard de Dieu, avec Dieu en se levant le matin. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, puis on va crier de joie. Dans la gestion de notre temps, le temps dans la présence de Dieu, c'est le pilier de votre édifice. C'est lui qui va tout soutenir. Une journée commencée dans la présence de Dieu va s'organiser d'elle-même. Puis là, je dis commencer. Peut-être que votre emploi du temps ne vous le permet pas. Une journée terminée dans la présence de Dieu prépare celle du lendemain. Alors, ça peut être vrai aussi. Un temps avec Dieu est le pilier d'un agenda équilibré, d'une vie équilibrée, et un pilier pour compter nos jours avec sagesse. La prière, c'est la seule façon de gagner du temps, puis de se montrer responsable aussi. J'en profite pour faire une publicité. Il y a un bon plan de lecture sur le YouBible qui est écrit par David Terry. J'ai lu son plan et ça parle des jours. Je trouve ça très intéressant. C'est ça un peu qui m'a inspirée. J'avais lu son plan et il parle justement de faire plus avec moins. C'est paradoxal avec Dieu parce qu'il nous demande d'accomplir des choses impossibles en faisant des choses saintes. C'est notre obéissance et notre foi qui vont déclencher la faveur de Dieu et son onction, même sur notre agenda, sur notre emploi du temps. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Je ne sais pas comment. Des fois, moi, je suis fatiguée, je me couche le soir, je me relève le lendemain matin, je suis super en forme. J'ai beaucoup travaillé. C'est Dieu qui renouvelle nos forces. Puis quand on se couche en paix avec Dieu, on dort d'une façon différente. C'est ni par la force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Accomplir des choses dans l'esprit signifie que dans la prière, on reçoit sa force, sa créativité pour arranger nos horaires, ses ressources, ses idées, ses solutions, mettez ce que vous voulez. Et là, tout s'arrange dans votre horaire. Des fois, vous dites, je ne sais pas comment je vais faire pour faire cette semaine-là. Vous allez y arriver, parce que Dieu est de votre côté. On a tout le monde 168 heures par semaine. Alors, c'est à nous de décider de travailler beaucoup pour peu de résultats, ou alors de dépendre entièrement de Dieu pour pouvoir accomplir ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas consacré notre temps avec Dieu. Et là, il y a un verset, quand j'ai lu ça, je dis, ah, wow, je l'aime ce verset-là. Il y a plein de versets que j'aime, je vous l'ai dit. Oui, c'est dans Psaume 127:2, oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Amen. Oh, yoï! Là, j'ai lu ça, je dis, bon, tu vas te calmer les nerfs, Annie. Tu vas aller dormir! Vous pouvez dormir. Je pense que ce verset-là, il se passe d'explication. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Et le début du psaume, ça dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Dieu a envie d'être dans votre agenda. Mettez-le dans votre agenda, vous êtes gagnant. Vous êtes toujours gagnant. Puis la prière, ça ne sert pas à convaincre Dieu de nous aider. Ça ne sert pas à l'apitoyer sur notre sort. La prière, ça nous permet d'avoir des révélations, des secrets. La prière, même des fois, on peut prier par l'esprit, ça déclenche des téléchargements divins dans chacune de nos vies. C'est le Saint-Esprit qui demande directement au Père hein, ce qu'on a de besoin, même ce qu'on ignore, même l'existence de nos besoins, ses solutions, son timing, ses stratégies, sa paix, nommez-les. La pensée commune, des fois, puis même les leaders, si vous travaillez pour un employeur, il veut toujours que vous donniez plus de temps. Alors, la pensée commune, c'est qu'il faut mettre plus d'énergie pour accomplir davantage. Il faut travailler plus. C'est cette façon de penser-là. Parfois, ça peut nous amener à négliger le reste de nos vies puis à ne pas être équilibré. Et j'aime bien une illustration. Pour accomplir ce qu'on doit faire, on doit plus dépendre de Dieu, de son esprit. C'est comme un ascenseur. Quand vous allez dans un ascenseur, là, vous pesez sur le bouton, là c'est 5 qu'il y a à l'écran, mais bouton 10, en combien de secondes? Vous serez au 10e étage, je ne sais pas, mais en très peu de secondes, vous êtes déjà rendu au 10e étage. C'est beaucoup plus rapide que si vous aviez pris les escaliers. Peut-être pour vivre plus longtemps, il faudrait que vous preniez les escaliers, mais ça, c'est une autre histoire. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Quand vous mettez votre vie devant lui, il y a un processus d'accélération. Et je ne sais pas ce qui se passe, il y a des choses qui se passent dans votre agenda, dans votre horaire, où vous avez une force renouvelée pour faire toute la somme de travail qui est devant vous durant cette semaine-là, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever de notre vie. On ne peut pas dire à vos enfants cette semaine, tu ne mangeras pas, je n'ai pas le temps de faire des soupers. Bien, vous pourriez le dire, là, mais ça dépend, ils ont quel âge vos enfants. Okay? S'ils ont 18-20 ans, là, vous pouvez leur dire ça. S'ils ont 5 ans, ne leur dites pas ça. Coupez un autre endroit. Mais avec Dieu, blague à part, avec Dieu, on peut faire plus avec moins. C'est comme il y a les mathématiques à l'envers. Faire plus avec moins. Moins de stress, moins d'énergie à tout vouloir gérer, plus de temps avec Dieu. Puis toujours en faire plus, même si c'est pour Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon, oh, je vais prier plus, je vais lire plus ma Bible. Ça ne veut pas dire que c'est ça que Dieu nous demande. Quand on ralentit, au contraire, on se met à l'écoute de Dieu. C'est là qu'il nous fait accélérer, comme quand on est dans l'ascenseur. J'arrête de m'agiter, puis là, j'entre dans la présence de Dieu. Puis par son esprit, bien, il subvient, il soutient, il me soutient, il me donne des forces que j'aurais pas si j'étais pas avec lui. En terminant. Rassasie-nous dès le matin de ta fidélité. Nous crierons de joie durant nos jours. Alors, rassasie-nous chaque matin. Moi, se rassasier chaque matin, c'est comme un petit calendrier de l'Avent. Ils s'en viennent bientôt. Connaissez-vous ça, les calendriers de l'Avent? Avant Noël, là, vous ouvrez à chaque jour, vous prenez un petit chocolat. Il y en a que c'est des thés. Bien, moi, se rassasier chaque matin, c'est la même chose. Alors, c'est avec Dieu, puis il y a une petite porte. Puis là, il y a le sac numéro 1 pour le jour 1 du mois. Et il y a une surprise là-dedans. Il y a quelque chose, il y a une promesse, il y a un encouragement que Dieu veut me donner. Mais il faut y aller. Si vous avez votre calendrier de l'Avent, là, il faut que vous ouvriez les portes pour aller prendre le chocolat à chaque jour. Ou là, vous n'en mangez pas pendant 29 jours, puis là, le 30e jour, vous ouvrez toutes les portes. C'est pas une bonne idée. Mais avec Dieu, c'est comme un calendrier. À chaque jour, puis c'est pas un calendrier de l'Avent d'un mois, c'est un calendrier de tous les jours. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Rassasie-nous dès le matin. Alors, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ouvrez votre sac chaque jour. Allez voir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte-là, chaque matin. Alors, aujourd'hui, c'est ça que je veux, c'est vous encourager à ne pas voir votre nouvelle semaine, votre nouveau mois comme un grand planning, mais comme une succession de matins, un jour à la fois, un petit matin. Aujourd'hui, on est le matin numéro 20. Si vous n'avez pas pris votre chocolat ce matin, vous pouvez le prendre ce soir, votre temps avec Dieu. Vous ouvrez la porte et il y a quelque chose de bon pour vous. Tous les jours, hein, autant qu'il y a de cases dans le calendrier, autant que Dieu est là, puis il y a notre dû à aller recevoir. Allez chercher votre dû. Allez chercher ce petit chocolat-là, comme dans votre calendrier. Alors, des jours à vivre, non dans la peur, non dans l'inquiétude, mais plutôt dans la présence, dans son amour, dans son écoute. C'est tellement bon de se retrouver avec Dieu. Enseigne-moi à bien compter mes jours pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puis ce matin, c'est ça que j'ai voulu vous partager. Chaque jour, il y a la sagesse de Dieu. Il y a ses bontés pour nous rassasier. Et même si on vit dans un monde complètement fou, des fois, au niveau de l'horaire, on gère des horaires de travail, on gère la famille, on gère plein de choses, on gère l'Église, mettez Dieu dans le portrait. Commencez votre journée avec Dieu. il est là, puis chaque jour, quand on se tourne vers lui, on trouve cette force-là de continuer. Et le regard de Dieu, c'est un regard d'amour, de miséricorde, de bénédiction. Dans votre petit sac, il se trouve ce dont vous avez besoin. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ce n'est pas les mêmes calendriers pour tout le monde. Alors, vous avez votre calendrier personnalisé. Moi, quand je vais vers Dieu ce matin, il y a quelque chose qui m'attend qui est propre à ma situation. Une autre personne va vers Dieu, il y a quelque chose qui l'attend, cette personne-là, qui est propre à sa situation. Dieu est un Dieu personnel. Il ne fait pas un calendrier de bénédiction le même pour tout le monde. C'est un calendrier adapté à chacun de vos besoins. J'invite le groupe de louanges ce matin. Pendant que ça s'installe, on peut réfléchir à justement quelle est la priorité de notre vie, hein? De veiller à notre manière de vivre. De demander à Dieu, où est-ce que tu veux que je mette mon temps, mon énergie? Où est-ce que tu veux que soient mes priorités? Es-tu prêt? OK, je vais faire ça. Moi, il faut qu'il ferme. On peut se lever ce matin? Alors, le groupe de louanges va faire un chant « Ta présence, c'est le ciel » et chaque matin, on peut avoir une petite portion du ciel en allant chercher notre petite surprise. On va chanter ça quelques fois, puis ensuite, on va prier.
Comme toi sur toute la terre.
Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté à l'infini. Et dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, pour toujours tu demeures.
Ta présence, Seigneur.
Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Ta présence, oui, Seigneur.
Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Trésor de mon cœur.
Trésor de mon cœur et de mon âme.
Oui, Seigneur, dans mes faiblesses.
Mes faiblesses, tu déverses ta grâce.
Rédempteur de mon passé.
Rédempteur de mon passé, mon présent.
Tu tiens mon avenir.
Tu tiens mon avenir. Entre tes mains.
Encore une fois, trésor.
Trésor de mon cœur et de mon âme.
Dans mes faiblesses.
Dans mes faiblesses, tu déverses ta grâce. Rédempteur de mon passé, mon présent.
Tu
Notre vie selon ton cœur, selon ton plan. Merci Dieu parce que tu ne nous laisses pas seuls dans cette aventure pour gérer notre vie, pour établir les priorités. Ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit, que tu nous diriges pour gérer notre horaire, gérer notre agenda, pour mettre les priorités au bon endroit pour établir nos priorités personnelles et celles de notre famille aussi, Dieu. Que nous comptons sur toi, sur ta sagesse, Dieu. Merci parce que chaque matin, ta sagesse est disponible. Ta paix pour affronter notre semaine, notre journée est disponible. Merci pour cette vie que tu nous as donnée en cadeau. Que notre vie puisse te glorifier, que notre vie puisse te plaire, que notre vie puisse refléter ton cœur, Dieu. Que les gens puissent voir que nous sommes sereins face au temps que nous avons dans une semaine parce que nous comptons sur toi. Tu es notre plan, tu es notre stratégie, tu es notre accélérateur, Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Je te demande de bénir les gens de l'Assemblée du plein Évangile, que ce soit des gens intelligents qui réfléchissent à leurs priorités, qui te mettent d'abord et avant tout dans leur vie, Dieu, qui te consacrent tout le temps qui t'est dû, Dieu. C'est dans ton nom que je prie ce matin, alors que nous continuons à chanter tes louanges. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, Dieu. Amen. Vous pouvez rechanter. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir en avant. Vous pouvez trouver un frère. On veut toujours prier pour les besoins des gens.
c'est le temps.